Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Et merci, bien sûr, à la librairie Imola et à la Société de philosophie de Bordeaux de recevoir aujourd'hui Thibaut Sadenave pour son livre paru aux éditions de l'Aube. Peut-on vraiment passer à côté de sa vie, dont le sous-titre est « De la quête de sens au supplément d'être ». Thibaut Sadenave est professeur en classe préparatoire au lycée La Bruyère à Versailles. Et c'est son troisième livre aux éditions de l'Aube. Les deux précédents, de très grande qualité eux aussi, étaient « Changement d'adresse », « Une philosophie du déménagement » et « Petit traité de la ponctualité ». Donc un livre sur le lieu et un livre sur le temps. Donc ce troisième volume est un volume à nouveau d'anthropologie et d'anthropologie, je dirais, pratique. Alors ma première question est très simple. Pourquoi le choix de ce titre ? Peut-on vraiment passer à côté de sa vie avec pour sous-titre « De la quête de sens au supplément d'être ».
Alors, merci d'abord pour à la librairie Imola pour son invitation, à la Société de philosophie de Bordeaux et à vous, cher Francis, de m'accueillir ici. Oui, c'est un des livres en fait d'anthropologie, comme vous le dites, et puis de philosophie avant tout, je crois. Hein. Je ne voudrais pas m'attribuer une casquette qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas un anthropologue au sens que ce terme prend dans les sciences humaines et sociales. Je suis un philosophe, et donc un philosophe a toujours ce côté un peu touche-à-tout. Et côté touche-à-tout qui l'amène à s'intéresser, comme vous l'avez constaté, en effet, à des sujets extrêmement différents. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de toujours partir au fond d'une expérience extrêmement familière, qu'il s'agisse du déménagement, qu'il s'agisse du fait d'arriver à l'heure, pour retrouver les questions philosophiques les plus traditionnelles. Ici, dans ce dernier ouvrage, hein, peut-on vraiment passer à côté de sa vie ? Ce qui m'a intéressé, c'est ce sentiment qu'au fond, nous traversons tous à un moment donné de notre vie. On dit que c'est plutôt à 40 ans, mais aujourd'hui, ça peut être plus tard, ça peut être avant, ça peut être à tout instant. Ce sentiment, justement, d'avoir emprunté peut-être une mauvaise bifurcation, de nous être trompés dans un de nos choix, et au fond, d'être à côté, en marge d'une existence, d'une autre existence qui nous aurait attendu. Et c'est cette expérience très familière, hein, je crois que d'après certains sondages, hein, on dit que 45% des Français connaîtraient cela, c'est quand même beaucoup quand on y réfléchit, c'est justement parce que cette expérience était ce point de départ qu'au fond elle est devenue le titre de cet ouvrage. Et en fait, à travers cette expérience, ce qui m'intéressait, c'est une question qui a l'air très philosophique en tant que tel, que le grand public s'imagine être la question philosophique par excellence, celle du sens de la vie. Et le paradoxe, c'est que les philosophes, finalement, se la posent peu, soit parce qu'elle est trop intimidante, soit parce qu'elle est trop vaste. Et en fait, j'ai voulu, à travers ce petit prisme, ce sentiment que notre vie ne nous appartient pas, que nous sommes étrangers à notre propre existence, c'est à partir de cette petite expérience-là que j'ai voulu m'intéresser à cette question pour mesurer à quel point, dans son apparente importance, au fond, elle est peut-être mal posée. Bon, les philosophes sont toujours là pour vous expliquer que les questions que vous posez sont en fait mal posées. Mais je crois qu'elle est vraiment mal posée, celle-là, et qu'elle nous amène vraiment à nous poser de faux problèmes, et des faux problèmes qui peuvent nous empêcher de vivre. Donc c'est pour ça que, alternativement à cette quête de sens, dont je crois qu'ultimement elle est sans objet, et on va avoir l'occasion d'en reparler, bien sûr, alternativement à cette quête de sens, j'ai voulu proposer au fond une autre idée, un autre concept, une autre notion qui pourrait peut-être nous guider dans ces moments de désorientation. C'est ce fameux concept de supplément d'être qui avait déjà fait son apparition dans le précédent ouvrage, hein, sur la ponctualité, et qui trouve là être un petit peu plus développé. Donc voilà, c'est dans la question du titre, et puis ce sous-titre qui peut sembler un peu mystérieux était vraiment là pour condenser ces différents éléments de ma réflexion.
Oui, au fond, ce qui s'oppose ici, c'est d'une part le concept de sens, et d'autre part, alors est-ce que c'est un concept ? Le concept d'être, puisque vous dites que la question du sens concerne en fait le discours, alors que ce n'est pas de discours dont il s'agit ici, mais bien d'être.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du sens de la vie, on pose la question d'un sens à une chose, la vie, qui en fait n'est peut-être pas du tout faite pour répondre à ce genre de questions. Alors je m'explique, le sens, c'est quelque chose qu'on peut déterminer, qu'on peut décider quand on parle d'un discours, quand on parle d'une parole. Une parole a du sens ou elle n'en a pas. Je la comprends ou je ne la comprends pas. Un énoncé, il fait beau aujourd'hui, prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, ce sont des choses à quoi on peut donner un sens. Et il est tout à fait important, bien sûr, de se mettre d'accord sur le sens de certains énoncés. Sont-ils vrais, sont-ils faux, ont-ils une importance pour notre vie, etc., etc. Donc le sens est tout à fait légitime qu'on se pose, qu'on définisse ce terme lorsqu'il s'agit de paroles. De même lorsqu'il s'agit d'action. Une action particulière a un sens ou elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'elle est cohérente ou elle n'en a pas. Les moyens qu'on utilise pour parvenir à une fin sont des moyens cohérents, appropriés ou non. Donc il me paraît bien sûr tout à fait légitime d'utiliser cette notion de sens quand il s'agit de paroles ou quand il s'agit d'action. Simplement, je ne crois pas que la vie constitue en elle-même, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans toutes ses hésitations, dans tous ses méandres, je ne crois pas que la vie constitue un seul énoncé. Ni non plus qu'elle constitue une seule action. C'est une pluralité d'actions, c'est une multiplicité d'actions. Et donc comment essayer d'identifier un sens unique, une signification unique à tout ce que nous faisons dans la vie? Je prends un exemple. Dans la vie, bien sûr que nous faisons des tas de choses successivement et parallèlement. Là, je suis en train de vous parler, en même temps j'ai une activité d'enseignant, comme vous l'avez rappelé. Voyez, notre vie est une succession d'actions qui se suivent, qui s'enchevêtrent. Mais pourquoi considérer que l'une d'entre elles serait capable de donner un sens global à tout ce que nous faisons? De la même façon, du point de vue du discours, je ne crois pas qu'il soit possible, sinon dans une sorte de raccourci, je ne crois pas qu'il soit possible de dire, de fixer dans une formule unique, voilà quel fut le sens de ma vie. Et c'est une question, à se poser cette question-là, à se formuler cette exigence, on formulerait envers soi une injonction qui me paraît absolument exorbitante. Comment décider en une formule de ce que fut le sens de ma vie? On trouve souvent aujourd'hui en philosophie cette idée, et ça vient de Paul Ricoeur, qui est un immense philosophe, hein, bien entendu, et ce n'est pas du tout ça qui est en question, mais cette idée qu'au fond, le récit que nous faisons de notre existence serait capable d'identifier la trajectoire que nous avons suivie, de sorte que rétrospectivement, nous pourrions dire, ben voilà quelle fut ma vie, voilà qui j'ai été, voilà le sens de ce que j'ai fait. C'est peut-être vrai pour quelques existences, c'est peut-être vrai pour quelques vies. Je ne crois pas que ce soit vrai pour toutes les vies, pas pour la mienne, peut-être pas pour la vôtre. Je ne crois pas qu'un récit serait capable d'unifier tout ce que nous avons fait, tous ces moments dans l'existence où on fait du surplace, où on fait autre chose qu'agir, où on fait autre chose que poursuivre des buts bien déterminés ou suivre des idées parfaitement définies. Notre existence est multiple, elle est plurielle, souvent elle est labyrinthique, elle est souvent discontinue. Je ne crois pas qu'un récit puisse ainsi en délivrer ultimement la morale, comme la morale à la fin d'une fable de La Fontaine. Et encore chez La Fontaine, la morale est rarement, en fait, tout à fait en rapport avec ce qui est vraiment raconté. Je crois que nos vies, c'est la même chose. Puis encore une fois, dans une vie, tout n'est pas action non plus. Tout n'est pas exprimable. Je pense souvent à ce passage connu et en même temps merveilleux de Guerre et Paix, de Tolstoï, quand le prince André à Austerlitz regarde le ciel. Voilà, c'est pas un moment d'action. C'est pas un moment de sens en réalité, c'est un moment de pur suspens, de pure rêverie. La douleur disparaît, l'histoire s'efface pour quelques instants. Notre vie est aussi faite de ces moments-là. Quel sens leur donner? Je crois que ce serait tout à fait vain d'essayer d'en chercher un. Donc c'est vraiment pour rendre compte de cette multiplicité, de cette richesse, de cette complexité, de cette discontinuité de la vie que j'ai essayé de montrer que voilà, le concept de sens n'est pas approprié pour cela. En revanche, le concept d'être, lui, ou plus exactement de supplément d'être, me paraît plus ajusté. Parce que, au fond, bien que notre vie soit complexe, hein, comme je l'ai dit, je crois qu'ultimement, elle pourrait être formulée, elle pourrait en tout cas être analysée en trois étages, trois niveaux, trois strates. Je crois que vivre profondément, c'est vivre pour quelque chose. D'accord. Et nous n'avons
en tout cas pour un homme, pour une personne.
Pour une personne, bien entendu. Je parle pour un être humain, en effet. Pour un être humain, vivre, c'est vivre pour. Et ce vivre pour se décline à plusieurs étages. Vivre pour, d'abord, satisfaire nos manques les plus élémentaires. Donc, en un sens, il y a une première direction de la vie, un premier supplément d'être qui consiste à satisfaire ses besoins les plus élémentaires, qui sont la satisfaction de la faim, la soif, le logement, la protection, l'accès aux soins médicaux. C'est déjà une question non seulement morale, existentielle, c'est aussi une question politique. Que d'assurer l'accès à ces soins-là. C'est une première direction de notre vie, un premier vivre pour. Il y en a un deuxième qui consiste à vivre d'une vie qui ne nous est pas imposée, mais que nous choisirions. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de toute la difficulté. Mais nous aspirons tous, je crois, à une vie qui nous soit propre. Une vie qui ne nous est pas fixée, qui n'est pas décidée par quelqu'un d'autre ou par un milieu ou par une famille. Et donc ce supplément d'être peut être trouvé quand nous sommes capables de faire à un moment donné ce choix dans lequel nous disons voilà quelle sera ma vie ou voilà en tout cas quel pourrait être un élément qui décidera, qui me mettra à choisir ma propre vie. Deuxième supplément d'être. Puis troisième supplément d'être, troisième objet de ce vivre pour qui nous anime, nous voulons non seulement satisfaire nos besoins, nos manques, nous voulons non seulement avoir une vie qui nous soit propre, mais nous voulons aussi une vie parfois qui soit autre. Et bien souvent, cette question, peut-on passer à côté de sa vie ? Elle apparaît dans notre existence au moment où on ne se reconnaît plus dans les choix que l'on a faits. Nous voulons une vie qui nous soit propre et en même temps, nous sommes toujours attirés par une autre vie, une vie encore à venir, une vie encore possible. Et lorsque nous réussissons à identifier cette autre vie possible et lorsque nous arrivons à satisfaire cette tendance, cette pulsion vers l'altérité, ce désir d'altérité, alors je crois qu'on atteint un troisième niveau de ce supplément d'être. Donc inutile de vouloir unifier ces trois directions de notre vie. Inutile de dire que notre vie pourrait être résumée, synthétisée dans un unique sens. Reconnaissons qu'elle en a plutôt trois, qui sont déjà fort complexes, chacun pris séparément, et que ce sont ces trois vivres pour qui définissent trois formes de ce que j'appelle un supplément d'être, c'est-à-dire une forme de plénitude, une forme d'accomplissement.
Alors je voudrais revenir à la deuxième strate, c'est-à-dire cette sorte de développement d'une vie qui est malgré tout variable dans l'histoire, selon les sociétés et selon les cultures. Parce que il y a des sociétés dans lesquelles le devenir d'un individu est relativement inscrit dans les structures sociales et culturelles de cette société. Et dans la nôtre, il semble qu'il y ait davantage d'ouverture et de diversité de possibilités. Est-ce que vous pourriez développer ce point-ci ?
Oui, bien sûr. Longtemps, en effet, les trajectoires des individus étaient très, très largement fixées par leur famille, par leur milieu, par leur lieu de naissance. Et au fond, il y avait peu de questions à se poser sur ce que sera notre vie. Au fond, c'est un peu la même question que j'avais rencontrée dans le déménagement. Bien souvent, pour certaines sociétés, et jusqu'à une date récente, certaines parties de la population ne se posaient jamais la question de déménager purement et simplement, car on est à un endroit et au fond, toute notre vie est déjà décidée. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui apparaît avec nos sociétés occidentales, avec leur complexité, avec leur mobilité, aussi, hein, donc on ne peut pas évidemment pas séparer cette question de la vie choisie des structures sociales qui sont les nôtres. Et il est vrai que plus cette complexité se développe, plus au fond elle ouvre, peut-être illusoirement, on va peut-être en reparler, mais en tout cas elle ouvre l'éventail de possibilités qui donne peut-être parfois aussi le vertige. D'accord. Donc en effet, dans nos sociétés, nous sommes confrontés, semble-t-il, à plusieurs possibilités de vie, et cette possibilité nous amène à interroger les choix que d'autres seraient tentés de faire pour nous, nos parents quand on choisit nos études, notre milieu, notre culture, notre naissance. Donc encore une fois, éventail de possibilités, vertige qui peut nous saisir, et puis parfois nous faisons en effet l'expérience de ces résistances très fortes, de ce qu'on appelle les déterminismes sociaux. Peut-être l'expression de déterminisme est peut-être à nuancer, mais en tout cas, nous faisons l'expérience en effet de ces résistances, et c'est par rapport à elles que la question du choix de la vie peut prendre parfois une dimension dramatique au sens d'une action à construire, d'une décision essentielle à notre existence,
avec à la fois des peurs, des angoisses, des craintes, et en même temps aussi des joies, de perspectives qui s'ouvrent les deux. Il y a donc des vies plus ouvertes. et avec davantage de contingence en définitive. Alors c'est un terme sur lequel j'aimerais que vous reveniez, le terme de contingence, qui est important dans le livre.
Oui, tout à fait. Et c'est un terme qui apparaissait déjà dans le précédent, sur dans le petit traité de la ponctualité. C'est drôle parce qu'en fait, c'est l'un des premiers mots que j'ai appris en classe de philosophie. Je me souviens toujours, premier cours de philosophie, le plus intimidant de tous. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et je me souviens de ma professeure, je ne sais pas si elle écoute cela, bien sûr, je la salue, d'autant qu'on est resté un petit peu en contact. Le premier cours sur les modalités de l'être, le nécessaire, le possible, l'impossible, le nécessaire, le contingent. C'est la première chose que j'ai appris en philosophie. Et donc, évidemment, il en est resté quelque chose. La contingence, c'est ce que j'ai appris, hein, c'est ce qui peut ne pas être. Je vis, mais j'aurais aussi bien pu ne pas vivre. Il aurait suffi que mes parents ne se rencontrent pas, etc. Je suis venu aujourd'hui, mais j'aurais pu ne pas venir. Il aurait suffi que vous ne m'invitiez pas, d'accord. Donc, c'est ce qui peut ne pas être. Ou alors, et c'est ça qui m'intéresse davantage, ce qui peut être autrement. Par différence avec le nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui doit nécessairement se produire, et ce qui ne peut pas être autrement, c'est-à-dire ça se produit nécessairement comme ça se produit, comme les lois de la nature, par exemple, la loi de la gravité, la chute des corps, etc. Donc évidemment, cette notion de contingence, elle m'intéresse profondément, elle m'intéresse aussi par son étymologie, puisque contingence, hein, en latin, ça vient du mot tango, hein, qu'on retrouve dans tangente, hein, en mathématiques. Et c'est ce qui touche, et donc c'est ce qui arrive, et ce qui rencontre. La contingence, c'est l'idée que bien, tout n'est pas joué, en tout cas l'usage que je fais de ce concept, hein, c'est de dire que tout n'est pas joué dans notre existence, que tout n'est pas d'ores et déjà décidé.
Il y a du jeu.
Décidé. Exactement, qu'il y a du jeu. Alors jeu, parfois au sens du pari de Pascal, c'est-à-dire c'est toute notre vie qu'on joue parfois, ou du moins qu'on a parfois l'impression de jouer dans un concours, dans certaines décisions, hein. Mais en tout cas, tout n'est pas joué dans notre vie. Et elle peut être autre. Elle peut soit se définir autrement que d'autres voudraient qu'on la définir, ou alors notre vie est susceptible d'une redéfinition. Nous sommes peut-être capables de lui donner une autre orientation que celle que nous lui avons jusqu'ici donnée. Or, bien souvent, cette contingence, cette altérité, hein, notre vie peut être autre, bah, elle tient aussi à la rencontre.
Bien
la
sûr.
Rencontre de quelqu'un d'autre, la rencontre d'un événement, la rencontre, pourquoi pas, d'une œuvre d'art, d'un livre, d'un roman qui nous montre d'autres possibilités de vie. Donc à chaque fois, cette contingence qui nous permet de rejouer notre existence, qui nous permet de dire que tout n'est pas fixé, passe par ce lien avec l'altérité, par ce lien avec l'autre, autrui dans sa présence charnelle ou autrui au sens de l'imagination de quelque chose d'autre. Et dans le traité de la ponctualité, j'avais essayé de montrer qu'au fond, c'est une dimension du temps. C'est à laquelle il faut savoir porter attention, ce temps non plus de l'exactitude des horaires, qui est bien sûr importante, hein, mais aussi ce temps de la rencontre, la ponctualité de la rencontre qui n'est programmée dans aucun agenda, qui n'est fixée par aucune montre et qui est pourtant parfois tout à fait essentielle pour donner à l'autre ce qui lui revient, et pour rencontrer auprès de lui peut-être la possibilité de réinventer en partie, hein, une part de ce que nous sommes.
Il me semble que dans une conversation que nous avons eue au téléphone, nous avions parlé du kéros.
Mmh. Oui, ce mot de kairos, ou kéros, hein, désigne en grec, hein, le moment opportun. À l'origine, c'est un terme qu'on trouve en médecine, hein, dans la médecine grecque, chez Hippocrate. Le kairos, c'est le moment que le médecin ne doit surtout pas rater quand les symptômes se déclarent, et qui appelle donc un jugement, en grec crisis, hein, qui dit crise, dit moment opportun. Évidemment, ces termes saturent, hein, notre espace public, hein, mais il est toujours intéressant de revenir à leur origine. Donc le moment opportun, c'est le moment que le médecin ne doit pas rater pour donner le bon remède, parce que sinon, c'est la mort. Alors on dit souvent que voilà, il faut savoir dans la vie saisir le kairos, le moment opportun, le moment où il se présente, parce que c'est à ce moment-là que tout se décide. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans la vie où c'est maintenant ou jamais. Faire une déclaration amoureuse, passer l'oral d'un concours, je dis ça parce qu'évidemment je suis confronté à ça toute l'année avec mes étudiants, donc oui, je dois leur apprendre que le kairos c'est très important et qu'il ne faut pas le rater le jour de l'épreuve. Donc bien sûr c'est très important au moment opportun. En même temps, ce qui me gêne un peu dans cette notion de kairos et dans cette philosophie du kairos qui nous dit c'est maintenant ou jamais, c'est que je lui trouve un arrière-goût au fond un peu inquiétant, voire un peu funèbre. C'est-à-dire le maintenant ou jamais, ça veut dire ta vie se joue maintenant, et pas dans 30 secondes, et pas dans une heure, et pas demain. Comme si véritablement toute notre vie pouvait toujours être suspendue à ces instants-là, comme si tout était toujours à faire de ces moments très courts, très brefs, où tout se joue une fois pour toutes. Or, justement, à partir du moment où je crois en l'importance de cette contingence, de ce qui peut être autre, je n'admets pas, ou je ne peux pas me résoudre, en tout cas, à ce que réellement toute notre vie dépende de ces moments-là. Donc, saisir le kairos, oui, mais je crois aux deuxièmes chances. Je crois au troisième, au quatrième, aux multiples chances. Je crois que notre vie peut emprunter des directions différentes, quand bien même nous aurions raté certaines occasions, quand bien même nous aurions manqué certains rendez-vous dont on nous dit autour de nous qu'ils étaient essentiels. Oui, peut-être. Ça ne veut pas dire que ma vie est terminée. Ça ne veut pas dire que ma vie est terminée. On peut penser aux stoïciens qui expliquent toujours, au fond, les événements ne dépendent pas de nous. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et je crois que c'est, au fond, très vrai. Un échec, un concours, un échec, un entretien de recrutement, un échec, qui sait, une élection, peu importe, c'est ce qu'on en fait qui compte. C'est-à-dire que si de votre réussite, vous faites un prétexte d'orgueil, un prétexte d'arrogance, un prétexte de pouvoir, un prétexte... vous aurez mal utilisé cet événement-là. Ça fera de vous le plus malheureux des hommes, parce que vous n'aurez pas su utiliser cette chance qui vous aura été donnée. Mais inversement, de certains rendez-vous manqués, de certaines occasions manquées, nous pouvons faire le moyen d'un apprentissage, d'une découverte de ce qui nous manquait encore, d'une maturité qui est encore à venir et à définir. Mais la contingence, c'est ça. C'est que nous rencontrons l'autre, mais ça ne veut pas dire que cette rencontre se joue dans des instants bien définis, déterminés une fois pour toutes, et qui décideraient de toute notre vie une fois qu'ils sont écoulés.
Il y a donc un art d'apprentissage de cette saisie des moments opportuns. Ça dépend des âges aussi que l'on a. Et en prenant de l'âge, on peut prendre de l'expérience et on peut agir ou réagir de manière plus positive, disons, et moins tragique.
Bien sûr, et c'est aussi l'une des questions que pose aujourd'hui la question de l'orientation des étudiants, la question de l'orientation éducative. Chaque année, ça revient, et pour cause. On parle de Parcoursup, on parle de... c'est les parents d'élèves, s'il y en a, ou les grands-parents, peut-être, dans l'assistance, savent de quoi il s'agit. Oui, aujourd'hui, il y a une pression énorme qui repose sur les épaules de nos jeunes
étudiants,
des élèves. Dans un monde aussi... dans une société aussi ouverte, on en parlait tout à l'heure, où les possibilités semblent multiples, au fond, cette multiplicité ne fait que renforcer le caractère dramatique de ces décisions et le sentiment qu'une erreur d'orientation, une erreur dans un vœu, le fait de ne pas être pris dans telle formation entraîne un échec,
une condamnation.
Oui, exactement, une condamnation, comme si nous étions déterminés par cela. Je crois qu'il y a un discours qui entoure ces décisions, qui les dramatise et qui les rend de plus en plus invivables, d'où évidemment un climat profondément anxiogène sur les étudiants, sur leurs parents, n'en parlons pas, puisque maintenant, semble-t-il, on va même jusqu'à recourir à des conseillers Parcoursup, enfin voilà.
Oui.
Prends cet exemple parmi tant d'autres, on pourrait en trouver d'autres.
Non, mais c'est un excellent exemple.
Mais je crois qu'il dit quelque chose de cette obsession de notre temps qui veut que tout doit être au fond planifié, tout doit être organisé, tout doit être prévu. Nous nous donnons à nous-mêmes l'illusion que nous sommes plus souples qu'autrefois avec les horaires, qu'on peut réserver à la dernière minute pour partir en vacances, ou que c'est... On a cette impression d'être plus souple. En réalité, on n'a fait que renforcer à un autre niveau un rapport aux échéances, un rapport aux décisions, un rapport aux moments cruciaux qui devient source d'une angoisse profonde et au-delà même d'une angoisse psychologique, je crois, d'une impossibilité de vivre.
Tout à fait.
Il est impossible de vivre si nous nous disons que notre vie décide d'instants qui nous appartiennent pas ou très peu.
Alors maintenant, il y a la troisième strate qui est la plus ouverte et la plus plastique en même temps et qui est peut-être l'instance fondamentale.
La vie autre, c'est
la
ça.
Autre.
Oui, alors à la fois, je voudrais pas trop en dire, parce que justement, qui dit vie autre dit une vie qui est encore en blanc, d'une certaine façon, comme un chèque en blanc. C'est-à-dire, il revient à chacun de décider, de déterminer, de définir à la faveur parfois de hasard, à la faveur parfois de rencontres tout à fait imprévues, hein, ce que c'est que cette vie, non pas à côté, mais de cette vie qui va remettre en cause ou qui va nous amener à élargir celle que nous menons déjà. Donc oui, cette vie autre, c'est quelque chose qui à la fois est central dans cet ouvrage, c'est vrai, et en même temps, c'est une vie par surcroît. Et je crois qu'il faudrait être très attentif aussi à cette chose. On trouve encore une fois aujourd'hui ce discours qui met en valeur la question du recommencement, de voilà, il faut savoir changer de carrière, il faut savoir tout quitter. Vous avez un poste de trader et puis vous allez ouvrir une brûlerie, vous allez vous mettre à faire du café. C'est formidable, d'accord? Mais comme si au bout d'un moment, c'était aussi un impératif social de plus que de savoir se réinventer, sachant que ça n'est pas donné à tout le monde et qu'on peut peut-être se réinventer brûleur ou torréfacteur quand on a été trader, pas forcément dans l'autre sens, d'accord. Bon, et donc je crois que cette vie autre, il faut bien être attentif à ce qu'elle veut dire. Elle ne veut pas dire que ce serait une obligation sociale de plus ou un motif de distinction sociale de plus que de savoir rompre, savoir faire preuve de variété dans sa carrière. C'est vraiment pas du tout comme ça que je l'entends. Cette vie autre, c'est une vie qui nous vient de la rencontre hasardeuse, qui nous vient de l'inattendu. Et donc, par définition, son contenu ne peut pas être fixé, déterminé, encore moins dans un traité de philosophie, ne peut pas être prévu. Parfois, cette vie autre peut passer tout simplement par un certain rapport à l'imagination. C'est-à-dire pas besoin de changer complètement de vie, pas besoin d'abandonner votre femme et vos enfants en allant acheter vos cigarettes et en ne revenant jamais, d'accord, pour avoir cette vie autre. Les romans, les œuvres d'art, la musique qui nous est chère à tous les deux sont autant de manières d'habiter le temps autrement, de prendre place dans une temporalité différente de celle des décisions à prendre, des finalités à poursuivre, des objectifs, etc. Et cette autre strate de la vie, c'est ça que j'appelle la vie autre. Et je voudrais qu'elle soit le plus souple possible, le plus plastique possible, et qu'elle soit aussi pour le lecteur, s'il a la curiosité de me lire, à l'occasion d'une réflexion de lui-même, par lui-même, pour le coup.
Et c'est peut-être à partir, effectivement, de détails très, très simples qui vont nous permettre de cultiver des possibilités que nous avions et que nous ne connaissions pas vraiment. Ce sont ces possibilités-là qu'il faut apprendre à découvrir et à cultiver.
Oui, tout à fait. Et au fond, cette question de la vie autre, je la rencontrais déjà, même si je la formulais pas exactement comme ça, dans le premier des ouvrages que vous avez mentionné sur le déménagement, hein, qui au fond est une manière très simple, très familière, très commune de rencontrer cette irruption de l'altérité dans notre vie, cet entre-deux-lieux que constitue le déménagement. Il y a le lieu que l'on quitte, le lieu dans lequel on s'installe, et puis avant qu'on s'y installe justement, avant qu'on y ancre notre identité, avant qu'on y dispose nos objets, nos affaires, nos livres, dans lesquels nous reconnaissons, dans lesquels parfois nous nous racontons, il y a ce moment dans le déménagement où on est au milieu des cartons et nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes. Nous sommes suspendus entre deux états de notre identité, entre deux configurations spatiales, temporelles de notre identité. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre parfois ce Et si je réinventais ma vie, et si ma vie était autre, si elle ne prenait pas le tour que je projetais pour elle. Je prends un autre exemple dans le livre sur le déménagement, quand vous n'avez pas encore les clés de votre nouveau chez vous et que vous devez passer une nuit à l'hôtel et toutes vos affaires sont dans un camion de déménagement, dans un garde-meuble quelque part, vous êtes un voyageur sans bagages. Et bien dans ce petit moment de vertige, on se demande Qu'est-ce que je viens faire là? Ce sont justement ces moments où le virtuel apparaît, c'est-à-dire cette altérité en attente d'être vécue, elle se rencontre. Alors on en fait ce qu'on veut, soit on lui donne sa chance, soit on ne lui donne pas sa chance. Et parfois il n'y a aucune raison particulière de lui donner sa chance. Vous avez un appartement dans lequel vous installez, un métier à faire, une famille à fonder, pas de problème, faites-le, d'accord? Mais fermez la porte à ces moments-là et les voir comme uniquement des moments d'angoisse ou de pure rêverie, je crois serait aussi appauvrissant.
Proust décrit ce type d'expérience, hein, de se trouver dans une pièce qu'on ne connaît pas et où on va dormir, etc.
Bien sûr. Et on l'a fait tous au fond quand on suffit d'une nuit à l'hôtel. Mais c'est particulièrement étonnant lorsque c'est dans un endroit qui est déjà le nôtre, qui va être le nôtre, un appartement, une maison à laquelle on s'installe, et qu'on n'a pas encore domestiqué, qu'on n'a pas encore apprivoisé. C'est ce moment, encore une fois, d'interrogation réflexive sur soi-même. Et c'est ça, la vie autre. C'est au fond, c'est pas toujours une autre vie que l'on va mener, mais c'est dans notre vie quelque chose d'autre qui apparaît et qu'on va peupler, qu'on va définir, qu'on va déterminer chacun à notre manière.
Alors toutefois, il y a un danger, il y a un risque, je dirais, c'est celui du bovarisme, c'est celui de rêver sa vie en définitive.
Absolument. Madame Bovary, qui a trop lu, est-ce possible de trop lire? Ben oui, ou en tout cas mal lu peut-être. En tout cas, qui a passé sa jeunesse à lire des romans sentimentaux et qui veut vivre sa vie comme une intrigue sentimentale, comme dans un livre. Et évidemment, eh bien voilà, Rodolphe n'est pas le héros de ses romans, non plus que Léon. Enfin voilà, si vous avez lu Madame Bovary, elle va de déception en déception et ça finit très mal. Et comme chacun sait, quand elle meurt, voilà, son sang est noir comme l'encre des romans qu'elle a trop lu. Bon, en même temps, voilà, le bovarisme consiste à rêver sa vie au lieu de la vivre. Pour autant, Madame Bovary ne fait pas rien de sa vie quand on y réfléchit. Et Julien Gracq, l'écrivain Julien Gracq, en lisant En écrivant, je crois, répétait cela. Au fond, elle a failli tout casser, elle a failli tout bouleverser sur son passage. Voyez la réaction du village, voyez Yvetot, Monsieur Homais, cette femme qui a failli introduire le scandale. Donc oui, Madame Bovary a trop rêvé sa vie plutôt que la vivre. Malgré tout, elle en fait quelque chose. Elle en fait quelque chose. Je crois qu'il y a aussi ce risque, bien sûr, qui consiste à à passer à côté du présent, effectivement là, en se projetant dans un avenir indéfini. Il y a une nouvelle de Henry James, La bête dans la jungle, qui est assez célèbre, hein, dans lequel un personnage a le sentiment que se produira dans sa vie à un moment un événement qui remettra tout en cause, un événement qui l'aidera à se définir lui-même, l'événement qui sera enfin à la hauteur de ce qu'il est, qui lui permettra de se révéler. Et toute sa vie, il parle à sa confidente de cet événement qui va se produire et dont il a le sentiment qu'il est comme une bête cachée dans les fourrés, la bête dans la jungle, hein, qui à un moment donné va surgir. Et puis évidemment, rien ne vient. Rien ne vient jusqu'à ce que sa confidente meure et il se rend compte à ce moment-là qu'elle l'aimait et que la décision qu'il aurait fallu qu'il prenne, ou plutôt l'attention à la vie qu'il aurait fallu qu'il entretienne, ce soit pour cette femme qui n'a cessé de l'écouter, qui avait des sentiments pour lui, qu'elle y s'est montrée totalement aveugle. Donc à trop fantasmer sur une altérité spectaculaire, sur une altérité renversante, bouleversante, j'ose pas dire révolutionnaire, mais en tout cas dans le cadre de notre vie, à trop fantasmer sur elle, pour le coup, là, oui, nous pouvons passer à côté de ce qui est là, de ce qui est déjà là. Ce que j'invite à faire, enfin, modestement, bien sûr, c'est à prêter notre attention, justement, à ce petit autre qui est déjà sous nos yeux. Voilà. Et cet autre, dans la nouvelle de Henry James, c'est cette femme. C'est cette femme qui recueille ses confidences.
Donc, il faut que c'est possible est aussi une certaine dose de réalisme aussi.
Absolument, impossible. Au fond, je crois que je suis philosophiquement, dans la vie c'est autre chose, mais philosophiquement, quelqu'un de plutôt réaliste, du moins j'essaie de l'être, et j'ose pas dire matérialiste, mais dans le déménagement, dans le livre sur le déménagement, ce que j'avais voulu montrer notamment, c'est que le moi passe par un ancrage physique, un ancrage matériel. Nous occupons un espace, nous occupons un volume. Le moi, nous avons l'impression que c'est une sorte de chose très, très mystérieuse, très intérieure, très... Oui, c'est intérieur, mais d'une intériorité qui est l'intériorité de notre chez-nous. Cette intériorité mesurable, calculable, et qui est toujours beaucoup plus encombrante que ce qu'on voudrait croire quand votre entreprise de déménagement vous demande d'évaluer le volume de vos affaires. Là, vous découvrez combien pèse et combien occupe votre moi. Je crois vraiment à cet ancrage matériel, réel en tout cas, peut-être que le mot matériel est trop étroit, mais en tout cas cet ancrage réel de nos identités. Le possible, c'est la même chose.
Oui, oui.
Le possible n'est pas qu'affaire d'imagination. Le possible a une existence, et je crois que l'existence la plus concrète du possible, c'est vous là devant moi, c'est vous qui m'écoutez, ce sont ces êtres qui se tiennent devant nous. Le possible est là. Possible de l'interaction, du dialogue, de la rencontre, du conflit aussi, bien entendu, du désaccord, hélas parfois de la violence. Mais le possible n'est pas pure imagination. Le possible se rencontre parce que souvent, le plus souvent, il vient de cette autre majuscule et très concret, la personne qui est en face de nous.
Donc il faut prêter attention à cette altérité.
Absolument, absolument.
Attention, de l'attention.
Bien sûr, et ce concept d'attention, il est bon, philosophiquement très, très chargé. Hein. On peut penser à Simone Weil, la philosophe, hein, qui a longuement réfléchi sur cette notion. Donc oui, je crois profondément à ce concept d'attention, mais je crois que voilà, qu'il doit naître à l'intérieur d'une relation profondément concrète. D'une relation profondément incarnée, je crois que c'est peut-être le mot qui convient,
oui, oui.
Incarnée dans deux êtres de corps qui se rencontrent, qui interagissent ensemble.
Donc il s'agit de l'altérité présente,
oui, c'est ça.
Atteignable.
C'est ça, absolument.
Alors d'autre part, dans votre livre aussi, et surtout dans les chapitres de la fin, vous distinguez deux notions très importantes qui sont la notion d'espoir et celle d'espérance.
Oui, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans mes livres, dans ces trois livres. Hein, c'en est un fil continu, et c'est peut-être dans ce troisième livre que cette notion prend le plus de consistance ou d'ampleur. Hein. Je l'ai écrit, il a été publié l'an dernier, en 2025. Je l'ai écrit à peu près deux ans avant, en 2023. Donc c'était le contexte de la guerre en Ukraine qui venait d'éclater. Ça a été une période où la question de l'espoir a été débattue chez les philosophes, où elle est un peu revenue. Je lui accorde évidemment une importance très grande. Simplement, ce que j'appelle espoir, enfin ce que je prétends appeler espoir, se distingue en effet de l'espérance. La notion d'espérance, je l'entends au sens le plus souvent religieux du terme, et qui n'est pas du tout à mépriser, pas une seule seconde, mais qui dit espérance, je crois, dit transcendance, c'est-à-dire soit intervention, soit c'est Abraham qui, ayant à sacrifier son fils, et enfin c'est ce que demande Kierkegaard, hein, ayant à sacrifier son fils, espère quand même jusqu'au dernier moment qu'une décision divine se fera
jour. C'est un agneau qui remplace Isaac.
Et voilà, et ultimement, c'est un agneau qui remplace Isaac. Donc l'espérance, c'est lorsque plus aucun espoir au sens traditionnel du terme, j'espère qu'il y aura un heureux dénouement, lorsqu'il n'y a plus aucun espoir qui existe, seule reste l'espérance parce qu'elle est confiance dans une transcendance. Ce qu'on peut appeler l'espérance. Il y a un autre sens du mot espoir, le plus courant, c'est l'idée que tout semble mal embarqué, mais il se produira bien quelque chose qui ultimement renversera la situation. Cet espoir-là, évidemment, il a souvent été condamné en philosophie comme parfaitement irrationnel. D'accord, croire que tout s'arrangera par miracle parce que au fond j'ai une bonne étoile ou que le pire n'est pas toujours sûr. Voilà, cette décision-là, cette attitude-là, tournée vers un futur miraculeux, est évidemment rationnellement discutable. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, dans la notion d'espoir, et ce que je crois qu'elle nomme quand elle est vraiment valable, c'est que l'espoir commence par une attention à ce qui est déjà là. On croit toujours que l'espoir est tourné vers le futur. C'est vrai, mais c'est un futur qui est envisagé à partir de ce qui est déjà présent. Expecto en latin, encore une fois, j'aime le latin, je défends le latin et je crois que l'étymologie latine, sans dire toute la vérité des termes, est toujours importante. Expecto, c'est d'abord regarder à l'extérieur, pas forcément regarder vers le futur, c'est regarder vers l'extérieur. Et regarder vers l'extérieur, c'est-à-dire vers ce qui est déjà là, vers une altérité qui est déjà présente, un autre qui se tient déjà devant nous et qu'il faut apprendre à saisir. L'espérance commence dans une attitude de confiance, confiance dans ce que nous avons déjà, ce dont nous disposons déjà. Le futur n'est pas le temps de ce qui se produira demain ou après-demain, le futur commence maintenant. Le présent auquel je crois profondément, ce n'est pas le présent d'un instant qui, à peine nous tournons-nous vers lui, qui s'est déjà enfui. C'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure sur la question du kairos. C'est un présent qui est toujours à sens futur. C'est un présent qui est déjà tourné vers le futur. C'est le présent quand on dit, ce soir je dîne avec vous. Ce présent de l'impatience, c'est aussi un présent, encore une fois, qui est tourné vers le futur. Je crois qu'il y a, dans les événements présents, des sources réelles d'espoir, au sens où il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dès maintenant et qui peuvent nous donner, encore une fois, cette forme de confiance et donc d'espoir envers le futur. Je prends un exemple très bête, et je le prends volontairement très bête parce que peut-être marquera-t-il davantage l'esprit. C'était un film qui était sorti à l'époque, là encore, où j'écrivais ce livre. C'était je me rappelle plus le titre de ce film, sur ce film dans lequel un météore va frapper la Terre et où évidemment tout le monde regarde ailleurs. Bon. Aujourd'hui, nous savons que la science est capable, depuis quelques jours d'ailleurs, hein, de dévier un météore. Donc ça veut dire que le scénario des dinosaures qu'on a tous appris à l'école, l'idée qu'un jour le monde pourrait s'arrêter de cette façon-là, ce scénario n'est déjà plus tenable. Nous sommes capables de le faire. Est-ce que nous le voudrions si ça se produisait? C'est une autre question. Mais ça veut dire que dès maintenant, dès aujourd'hui, il y a des motifs de croire qu'il y a une forme d'apocalypse, il y en a bien d'autres, hein, mais il y a une forme d'apocalypse que nous savons déjà, d'une certaine façon, conjurer. Alors si c'est possible pour ça, pourquoi pas pour d'autres choses? Pensons à la crise écologique. Les réponses à la crise écologique, la crise environnementale, elles ne sont pas mystérieuses, nous les connaissons en fait. Nous les connaissons. Et nous avons peut-être déjà les moyens de les mettre en œuvre. Après, évidemment, le problème, c'est arriverons-nous à nous convaincre les uns les autres? Arriverons-nous à nous coordonner les uns les autres? Arriverons-nous à vouloir ensemble cela? Bien sûr. Mais les solutions, elles existent, elles ne sont pas mystérieuses. Donc voilà, je crois que deux exemples pour nous montrer que l'espoir, ça commence maintenant. Ce n'est pas l'attente d'un futur comme le héros de la bête dans la jungle. C'est un futur qui commence maintenant et qui demande un peu d'humilité, reconnaître que nous ne pouvons pas tout peut-être nous-mêmes, mais que nous avons besoin des autres pour cela, un peu d'humilité, mais beaucoup de confiance.
Voilà, le mot confiance est très important. Et effectivement, cet espoir-là, c'est le contraire du désespoir. Et au fond, le danger, c'est le désespoir, justement. C'est le désespoir et l'absence de confiance. Et donc, il faut renforcer tout ce qui peut donner confiance dans ce devenir, dans cet avenir, dans ce possible.
Absolument, bien sûr. Et je crois que voilà, la philosophie n'est pas là pour le désespoir. Elle n'est pas faite pour cela. La littérature peut parfois nous permettre de le comprendre, de le décrire, de le sentir d'une façon incomparable. Certaines musiques, peut-être, nous le font entendre d'une manière qui n'a pas non pareil. La philosophie, je crois, n'est pas là pour le désespoir, mais pour le contraire. Je crois très profondément à cette notion de confiance qu'elle peut donner. Au fond, je pense là, cette fois-ci, au grec. En grec, la forme supérieure de la connaissance, épistémé, cette connaissance qui est au sommet des degrés de connaissance, aussi bien chez Descartes ou que chez Aristote. Épistémé en grec, piste, c'est la même racine que pistis, la confiance. La science, c'est ce dans quoi nous devrions avoir ultimement le plus confiance, parce qu'elle est rationnelle, parce que
voilà,
nous pouvons... Et je crois que la vérité que nous cherchons, que nous pouvons collectivement débattre, bien entendu, mais aussi élaborer, c'est d'abord ce dans quoi nous avons le plus de raison de placer notre confiance. La philosophie, en ce sens-là, cherche cette sagesse de reconnaître ce dans quoi nous pouvons mettre notre confiance, pas notre désespoir. Je crois, c'est très naïf, c'est peut-être très optimiste, on me dit souvent que je suis un philosophe trop optimiste, tant mieux, j'accepte l'insulte, j'accepte le compliment, je crois que c'en est un. On ne peut pas se satisfaire du désespoir en philosophie. Au fond, Hegel, ce qui n'est pas forcément mon philosophe préféré, mais quand même un qui m'a beaucoup marqué, voit dans la philosophie, au fond, une alternative à la tragédie. C'est soit la tragédie du non-sens, soit la philosophie qui donne un sens. Alors, vous avez compris que la notion d'un sens global, moi, je n'y crois pas trop. Mais des raisons locales, des raisons particulières, des raisons circonstancielles et néanmoins extrêmement puissantes qui commencent maintenant de faire confiance à ce dont nous sommes capables, ça, j'y crois et ça, j'ai envie de le défendre comme philosophe.
C'est parce que la philosophie est toujours un pari de confiance envers la vérité, envers la raison et envers du progrès, en définitive. Mais un vrai progrès.
Absolument, absolument. Et ce mot de pari que vous prononcez, oui. Francis, il est très important. Parce qu'évidemment, on pense à Pascal.
Oui.
Le pari de Pascal, bon, vous le savez peut-être, c'est nous avons tout intérêt à croire que Dieu existe, parce qu'au moins nous aurons un gain éternel, etc., etc. C'est pas ça, au fond, quand on lit bien ce texte de Pascal, qui est passionnant, parce qu'il est très riche et très, au fond, beaucoup plus équivoque aussi que ce qu'on veut bien croire. Le cœur de l'argument de Pascal, c'est qu'à tout moment dans notre vie, nous avons déjà fait un pari sur quelque chose. Nous avons déjà fait un pari sur quelque chose d'essentiel. Pour lui, évidemment, dans sa perspective, au fond, notre manière de vivre est déjà implicitement un pari sur l'existence ou l'inexistence de Dieu. Laissons même de côté cette question-là. Notre manière de vivre contient en elle-même un pari sur certaines choses. Est-ce que je crois, j'en sais rien, que la révolution prolétarienne est possible? Est-ce que je crois que l'apocalypse, c'est pour demain? Est-ce que je crois que l'effondrement est imminent? Notre manière de vivre contient ce pari-là. Et dans toute manière de vivre qui ne se résout pas à ce désespoir, dans toute manière de vivre qui ne se résout pas à l'idée que tout est joué, il y a un autre pari. Le pari, justement, que de l'autre est possible, d'autres occasions, d'autres chances sont possibles. Je crois très profondément à ce pari-là, ce pari existentiel que nous faisons. À un moment donné, bien sûr, certaines vérités philosophiques, certaines convictions philosophiques demandent quelque chose d'un peu plus qu'une démonstration. Toutes les démonstrations du monde ne nous prouveront pas qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, comme le croyait Épicure. Toutes les démonstrations du monde ne nous convaincront pas de l'immortalité de l'âme, comme le pensait Socrate. Mais à un moment donné, il y a un pari que l'on peut faire sur ce qui est possible, un pari que l'on peut faire sur un autre rapport au temps que l'attente de la mort, un pari que l'on peut faire sur tout ce qui est déjà à notre disposition pour incarner ces possibles que nous rencontrons.
Donc la démarche philosophique va dans ce sens-là.
Oui, je crois, oui.
C'est très important. C'est très important et c'est quelque chose, c'est une culture qui existe depuis les philosophes grecs, en définitive, pour nous, pour notre tradition occidentale, depuis les philosophes grecs, depuis Socrate, tous les philosophes grecs de l'Antiquité, en définitive, etc., toute cette tradition. Et donc, votre livre est en effet, et tous vos livres, au fond, sont optimistes, en définitive.
Oui, alors je me souviens toujours de cette phrase, je crois que c'est Bernanos, le pessimiste, l'optimiste est un imbécile heureux, mais le pessimiste est un imbécile malheureux.
Voilà,
entre les deux imbécilités, j'ai choisi la mienne. Encore une fois, cet optimisme, il ne doit pas être béat, il ne doit pas être aveugle.
Bien sûr.
Et j'ai toujours essayé dans mes différents ouvrages d'être attentif à la dimension tragique, la dimension souffrante, la dimension malheureuse de l'existence. Dans le livre sur le déménagement, j'ai essayé d'attirer l'attention sur cette idéologie du déménagement qui consiste à dire « je vais me réinventer dans un autre lieu, je vais inventer un nouveau moi-même, par la force de ma propre volonté ». Non, souvent nos déménagements ne sont pas choisis, ils sont imposés par une rupture, par un licenciement, par un divorce. Dans le traité sur la ponctualité, j'essaie aussi d'être attentif, bien sûr, à ces rendez-vous manqués. Je dis juste qu'ils ne sont pas le dernier mot. Et je crois que oser dire cela, que ça n'est pas le dernier mot, les regarder, bien sûr, ces moments d'épreuve, mais oser dire qu'ils ne sont pas le dernier mot, là, et l'une, c'est peut-être pas la seule, mais c'est là l'une des fonctions de la philosophie, je crois, et en tout cas une philosophie qui, comme celle que j'essaie de développer, croit à cette évidence, car c'est une évidence, que ce qui est peut être autre. Évidence bien cachée, évidence qui demande qu'on la regarde attentivement, mais évidence tout de même, oui, ce qui est peut être autre, malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, qu'il ne faut évidemment pas du tout sous-estimer.
Alors, je voudrais faire aussi une remarque sur la très grande lisibilité de vos ouvrages. Et il me semble que votre situation de professeur de philosophie y est pour quelque chose. Il me semble que vos livres sont tout à fait à la portée des lecteurs que sont vos étudiants, en définitive. Et ça me paraît très important, ceci, cette démarche que vous avez de lisibilité à l'égard de vos jeunes lecteurs.
Oui, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, d'autant que, je vais vous faire une confidence, la clarté, pour moi, est un effort permanent, et un effort parfois presque insurmontable. C'est-à-dire, je ne suis pas naturellement clair, je ne suis pas naturellement lisible. Quiconque s'aventurerait dans mes manuscrits constaterait que, faire une phrase simple demande énormément de temps, et encore plus en philosophie. Atteindre la clarté, atteindre une simplicité qui n'est pas un simplisme, j'espère en tout cas, demande un réel effort. Mais en effet, j'y suis très attaché. Pas au sens où je voudrais vulgariser. Je crois que le mot de vulgariser, j'avais un prof de Cannes qui nous expliquait ça. On peut vulgariser la science, parce que vulgariser la science, c'est vulgariser des résultats. Parce qu'évidemment, un résultat scientifique, c'est une ligne d'équation. Si vous vulgarisez pas, personne n'y comprend rien. On peut pas vulgariser la philosophie, parce que la philosophie, c'est une méthode. Et alors, je suis assez d'accord avec ça. Donc je crois que le terme de vulgarisation, ne me convient pas. En revanche, la méthode, c'est un chemin, et qu'un chemin puisse être balisé, qu'un chemin puisse être accompagné par un guide de montagne ou que sais-je, ça, je crois que c'est possible, y compris quand il est raide, y compris quand il est compliqué, y compris quand il se voit pas à l'œil nu. Comme professeur de philosophie, je dis souvent ça à mes étudiants, je me vois comme ça, comme le guide de montagne que je serais incapable d'être. C'est-à-dire essayer de guider sur les sentiers escarpés de la phénoménologie de l'esprit, de la critique, de la raison pure. Et Dieu sait que c'est parfois escarpé et que le guide lui-même parfois tâtonne. Hein, bon, voire est emporté dans certaines avalanches, bien sûr. Mais voilà, comme enseignant, je me vois dans cette position-là. Comme philosophe, ou en tout cas comme quelqu'un qui essaie d'écrire des livres de philosophie, je suis très attentif à cette idée que, oui, je crois que quiconque a le désir de la philosophie, le désir de se confronter à ces questions, le désir de rencontrer ces problèmes du rapport au temps, du rapport à l'identité, du rapport à notre propre vie, doit pouvoir s'y retrouver en ouvrant mes livres. Et j'essaie de faire cet effort que, au fond, toute personne qui a ce goût-là, qui a cette volonté-là, puisse les lire. Ça ne veut pas dire que ça se lit. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que ça se lit comme on boit un verre d'eau, hein, ou comme un polar, évidemment pas. Un raisonnement philosophique, à un moment donné, il peut bien être écrit dans des termes non techniques, il demande bien sûr de l'attention et au fond une forme d'effort. Mais je crois qu'on peut parvenir à cette forme d'effort en laissant de côté tout ce qui parfois obscurcit le propos philosophique, le jeu des sous-entendus, le jeu d'une culture qu'on n'a pas forcément quand on ouvre un livre, et voilà... Souvent, hein, des étudiants demandent aux libraires, je suppose, ici chez Mola, ou aux professeurs que nous sommes, par où je commence en philosophie? Qu'est-ce que je dois lire en premier? Et cette question-là, on est toujours, nous, profs de philo, complètement démunis, parce que, évidemment, on ne va pas commencer par la critique de la raison pure. Et même Platon, à vrai dire, c'est magnifique, c'est irremplaçable, mais c'est pas toujours simple. Et un étudiant à qui on fait lire Le Banquet, bon, bah, il s'arrêtera au mythe d'Aristophane, les âmes sœurs, il ira pas plus loin. Donc, comment répondre à cette demande, qui n'est pas seulement celle des jeunes gens, mais aussi de personnes qui ont la curiosité de la philosophie, comment répondre à cette demande, par quoi je commence? Alors, je prétends pas qu'il faut commencer, mais qu'en tout cas, si on s'intéresse aux questions que j'essaie d'aborder, j'aimerais croire que mes livres peuvent être lus par ce genre de public-là. J'aimerais croire aussi que même quand on a plusieurs années de philosophie, même quand on est prof de philo, même lorsqu'on est chercheur, qu'on peut quand même retrouver dans ce que j'écris des tentatives de réponse, des tentatives de raisonnement, et qu'au fond, ces différentes strates de lecture sont possibles. J'aimerais croire que c'est le cas, mais ça, c'est au lecteur d'en décider.
Il y a encore un concept sur lequel j'aimerais qu'on revienne et qui me paraît crucial dans votre travail ici, c'est le concept d'identité. Parce que l'identité dont vous parlez, c'est une identité ouverte. Alors bien sûr, c'est une identité qui s'enrichit de rencontres, qui s'enrichit d'altérité, mais il me semble qu'il faut vraiment développer ce concept d'identité dans toute sa complexité.
Oui, alors l'identité... Je crois qu'on est dans une époque qui en est malade, à vrai dire. Malade de la question de l'identité et malade des fausses conceptions de l'identité. Entre deux, au fond, deux écueils complètement opposés. Le premier, celui d'une identité figée, identité de race, identité de classe, identité de nation, identité de race, des identités qui nous sont déjà assignées et dont il ne faudrait surtout pas s'écarter, identité dont il faudrait conserver la pureté. Bon, voilà, je pense que tout le monde comprend quel genre de discours j'ai en tête. Donc, il y a cette conception-là de l'identité prédéterminée, héritée, reçue, et même pas comme un héritage, en fait, un héritage. On est censé se l'approprier. Là, ce ne serait même pas une identité qu'il faut s'approprier, c'est une identité qui nous tomberait dessus. Donc des identités fixes. Puis d'un autre côté, de l'opposé extrême du discours, il y a aussi je crois peut-être cette conception d'une identité entièrement fluide sur laquelle nous aurions la possibilité d'inventer, de réinventer en permanence, comme si elle était un livre blanc. Moi, j'essaie de tenir une ligne médiane. Et comme on le disait tout à l'heure, philosophiquement, j'essaie d'être plutôt réaliste, pas matérialiste, mais tout de même. Je crois que l'identité, elle s'ancre. L'identité, elle s'incarne. L'identité, elle est dans des pratiques, elle est dans des lieux, elle est dans des rapports humains. Elle n'est pas quelque chose de purement abstrait.
Dans des œuvres aussi.
Dans des œuvres, bien entendu. Donc oui, une identité ouverte, assurément. Une identité relationnelle. Une identité dans laquelle je ne suis jamais aussi pleinement moi-même que dans un dialogue avec quelqu'un. Comme le prof que je suis n'est jamais autant, en tout cas comme philosophe, aussi lui-même que quand il fait cours. Voilà, un prof qui ne fait pas cours, c'est comme une cloche fêlée, si vous voulez, d'accord. Donc là, j'ai le sentiment d'être moi-même. Mais voyez, cette identité-là, elle coexiste avec d'autres formes d'identité. Je suis aussi moi-même avec mes parents, avec mes amis. Elle est multiple, cette identité. Mais en tout cas, elle est, je crois, elle est toujours dans une relation avec l'autre qui n'est pas une négation de soi, qui n'est pas l'idée que nous serions un pur vide qui se mettrait à exister miraculeusement dans une pure relation. Non, ça, ça me paraît beaucoup trop abstrait. Nous sommes bien déterminés par certains côtés. Nous avons un corps qui a des propriétés, parfois des handicaps, hélas. Nous y sommes bien dans un lieu, nous y sommes bien dans un pays avec une histoire, avec nos névroses toutes françaises, nos névroses toutes allemandes ou que sais-je, d'accord. Nous naissons au milieu de cela, il ne s'agit pas de le nier, de faire comme si ça n'existait pas. Mais j'ai aussi la conviction que cette contingence, ce rapport avec l'autre, permet au fond une transformation, dans certains cas. Et je crois que c'est un terme que j'ai pas assez prononcé jusqu'ici dans mes livres et qui compte de plus en plus, mais ça c'est l'âge qui vient, de mûrissement. Mm-hmm. Mûrir, c'est se transformer en devenant de plus en plus soi, je crois. Mm-hmm. Mûrir, c'est se transformer au contact des autres, dans l'expérience avec l'autre, et mais d'une manière qui n'est pas une négation de soi, qui n'est pas une sorte de nous ne sommes pas des caméléons qui avons à décider tous les jours de nos propres couleurs. Mais mûrir, c'est advenir progressivement à soi dans cette incorporation, dans cet élargissement, dans cette discussion avec l'autre. On n'est pas un pur décentrement. J'ai beaucoup d'admiration pour la pensée de Lévinas, le rapport à autrui. Mais je me demande parfois si cette relation à l'autrui, chez lui, n'est pas trop absolue, trop radicale. Parce qu'il dit « nous sommes l'otage de l'autre ». J'ai pas envie de ce terme ne me convient pas, ou en tout cas philosophiquement me déplaît. Donc nous sommes bien quelque chose, mais un quelque chose qui n'est jamais autant lui-même que dans cette relation, et une relation qui élargit notre être à partir de ce qu'il est déjà, et en ce sens-là, je crois, j'ose croire, qu'il aide à mûrir.
Oui, et vous m'avez confié que votre prochain livre portera sur le sujet de l'amitié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Alors, je reviendrai, peut-être, pour en parler à ce moment-là. D'autant, je me suis toujours de parler trop des livres avant, parce que toutes sortes de choses peuvent se produire. Mais donc, disons que, oui, en effet...
Et disons sur le lien qu'il y a entre les précédents livres et le prochain.
Bien sûr, c'est un lien un peu inattendu, parce que c'est une demande qui m'a été faite par mon éditeur et mon éditrice. Et je l'en remercie d'ailleurs. Au fond, c'est un sujet qui m'a été, pas imposé, mais au fond, qui n'est pas venu de moi. Et c'est une position philosophique intéressante. Je me retrouve encore comme mes étudiants qui ont des sujets de dissertation. Enfin, j'espère pas tout à fait quand même. Mais obligé de m'emparer d'un objet vers lequel j'aurais pas spontanément réfléchi. La question de l'amour, mais peut-être beaucoup plus philosophiquement familière et attirante que celle de l'amitié. Parce qu'au fond, la notion d'amitié, j'ai des amis et j'y tiens beaucoup. Mais elle est pour moi source de beaucoup de perplexité dans sa définition. Dans ce qu'il faut véritablement en attendre dans notre vie. Et c'est pour ça que ce sujet m'a interrogé et il m'a aussi intéressé dans ce sens-là où, pour une fois, je n'avais pas une thèse bien nette à argumenter et à démontrer sur 100, 200, 300 pages, mais plutôt toute une série de questions que j'aborde, que j'essaie d'éclaircir, mais à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Et oui, j'ose dire que non, j'ai pas une définition toute prête de l'amitié, et je me méfierais même un peu des définitions toutes prêtes de l'amitié, comme la philosophie parfois a pu en donner. Et pour cause, la philosophie, elle est d'abord amie de la sagesse. Hein. La philosophia, c'est bien ça. Donc c'est une amitié de la sagesse. Que signifie cette amitié? Au fond, je n'en suis pas sûr. Et je crois que nos rapports aux amis sont extrêmement variables, extrêmement complexes, que l'amitié, elle est à géométrie variable entre le petit nombre d'amis qui sont quasiment nos frères, mais peut-être plus ou autre chose que cela, et puis ces personnes que nous rencontrons peut-être une fois l'an, qu'on a quand même envie d'appeler des amis, encore qu'on ne leur confie pas tout, encore qu'ils ne savent pas tout de nous, mais qui sont quand même suffisamment présents dans notre vie pour que nous considérions qu'ils en font partie. Donc j'essaie, dans ce livre, je vous en révèle la teneur, si j'ose dire, j'essaie de réfléchir sur cette complexité, ce caractère un peu indéfinissable de l'amitié, qui dit d'une certaine manière d'être relié au monde, mais qui ne s'enferme pas dans une forme unique, dans une forme définissable, dans une forme isolable, une fois pour toutes.
Bien, on peut vous remercier chaleureusement.
Merci.